Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, le Conseil d'État a rejeté toutes les affaires dont il était saisi en rapport avec l'annulation par la CENI du suffrage des 82 candidats députés. Le Conseil d'État a prononcé sa décision à son audience à huis clos d'hier vendredi, se déclarant incompétent de traiter une matière électorale alors qu'il est juge administratif. Des centaines d'enfants déplacés au Nord Kivu ne vont pas à l'école, pour certains il y a 2 ans. Le représentant adjoint secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur humanitaire recommande des discussions avec les autorités congolaises pour une solution à cette question. Bruno Le Marquis a visité en effet les déplacés dans la cité de Sake, en territoire de Masisi. Il est l'invité de ce journal. À Lubumbashi, plus de 380 personnes souffrant de plusieurs maladies, dont la fente labiale, ont été soignées gratuitement au cours de l'année 2023. C'est l'œuvre de l'ONG Bureau d'assistance aux malades nécessiteux, dont l'objectif est d'apporter du sourire aux malades qui croupissent dans le désespoir. Mais avant de développer ce titre, sachez que la 34e Coupe d'Afrique des Nations démarre ce samedi 13 janvier 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avant le coup d'envoi du match d'ouverture qui mettra aux prises la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, il est prévu une cérémonie d'ouverture au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Mais au-delà d'être la fête du football africain, la CAN célèbre aussi les cultures du continent. Des détails avec Vanessa Kongolo.
La CAN n'est pas seulement la fête du football, mais aussi celle de la diversité culturelle africaine. Logée dans le groupe F, basé à San Pedro, les Léopards seront accompagnés des artistes congolais. Vicha Mwilambo Bondo, l'un d'entre eux, est déjà sur place.
Il y aura la musique, il y aura d'autres formes d'expression artistique, il y aura tout ce qui est culinaire, la cuisine de beaucoup de pays d'Afrique, les gens qui vont jouer, qui vont chanter, ils doivent manger. En même temps, ils doivent aussi se confronter à toutes ces cultures qui viennent d'Afrique. Dans le domaine des arts visuels, la scéno, les arts plastiques, c'est avec les artistes qui vont s'inspirer de l'histoire du football en Afrique pour présenter en forme d'exposition pendant cette Coupe d'Afrique des Nations et nous sommes là.
Cependant, en ce qui concerne le football, l'ancien Léopard Erita Ilunga espère que les Léopards donneront le meilleur d'eux sans pression.
Ils viennent de loin. En tout cas, ils ont beaucoup de choses à démontrer. Je ne sais pas s'ils seront revanchards, mais en tout cas, la RDC est une grande nation. Les Léopards est une grande équipe du football africain. Donc sans pression, il faudra qu'ils jouent et qu'ils nous fassent honneur.
Pour la cérémonie d'ouverture, au-delà du groupe Magic System, pour l'hymne de la CAN, l'artiste congolais Dadju sera de la partie.
Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue et surtout bonne écoute. Polydor Basunga assure la mise en onde devant ce micro. Jean-Désiré Kanyama. Le Conseil d'État a rejeté toutes les affaires dont il était saisi en rapport avec l'annulation par la CENI des suffrages des 82 candidats députés. Le Conseil d'État a prononcé sa décision à son audience à huis clos hier vendredi, se déclarant incompétent de traiter une matière électorale alors qu'il est juge administratif. Dans sa déposition, la CENI a fait savoir que les candidats députés frappés par ces décisions n'ont pas été invalidés. Ce sont leurs suffrages qui ont été plutôt annulés. Des détails avec vous, Jeff Ngoy.
Le Conseil d'État dit que la procédure des référés n'est pas prévue en matière électorale, mais uniquement contre les décisions administratives. Est-ce que les décisions de la CENI annulant les suffrages de ceux qu'elle accuse notamment de fraude électorale et de vandalisme de ce matériel ne constituent pas un acte administratif? À cette question, un juge répond qu'en apparence, mais elles font partie d'incidents relatifs au processus électoral de proclamation des résultats. Cela est décidé ainsi, entre autres, dans les cas de Massima Nimba avec Kinkei Mulumba, Didier Mazenga et Adibaye avec Monalux et tant d'autres cas encore. Ils auront la possibilité d'aller à la Cour constitutionnelle en contentieux des résultats législatifs lorsque la CENI aura proclamé ses résultats et dira qu'ils ont eu 0 voix. 82 candidats aux législatives nationales et provinciales sont concernés par les décisions d'annulation des suffrages et des élections. Parmi eux, 16 au départ, puis le chiffre est passé à 42, sont allés au Conseil d'État et d'autres à la Cour constitutionnelle. Certains, en revanche, ont introduit des recours à la CENI sollicitant une clémence. Il s'agit d'une décision politique, regrettent quelques requérants qui se considèrent être dans une matière administrative dont le Conseil d'État est compétent.
Il faut trouver rapidement des stratégies pour permettre aux enfants déplacés qui ne vont pas à l'école de reprendre les scolarités au Nord Kivu. Si la question n'est pas vite réglée, l'Est de la RDC connaîtra une génération perdue. Propos du représentant adjoint secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur humanitaire. Bruno Lemarquis revient sur cette question à l'issue d'une visite de déplacés dans la cité de Sake, à 27 km de Goma, dans les territoires de Masisi. Dans cette cité qui accueille 26 000 déplacés, il a vu des centaines d'enfants déplacés qui ne vont pas à l'école. Et dans d'autres sites autour de Goma, des milliers d'enfants passent leur deuxième année sans étudier. Bruno Lemarquis est avec Rosalie Zawadi.
On le voit dans d'autres pays, les générations perdues. Un an, deux ans, l'enfant décroche. Il y a des générations perdues dans certains pays qui sont complètement perdues parce que ça a duré des dizaines d'années. Ouais. Donc il faut vraiment rattraper ça, trouver des solutions pour renforcer les services publics existants. Voilà, pour augmenter leur capacité, augmenter le nombre de salles de classe, augmenter les ressources humaines au niveau des écoles préexistantes, faire des choses à l'intérieur des sites. Il y a aussi tout l'aspect pour les plus âgés, les adolescents et les jeunes adultes et même les adultes, de la formation professionnelle. Quelqu'un qui passe des années dans un site sans apprendre un métier, qu'est-ce qu'il fait quand le jour où il retourne chez lui? Il n'aura peut-être pas appris à travailler la terre. Et donc il faut aussi profiter de cette période pour développer des métiers, y compris certains des métiers du futur. Où est-ce que le Congo aura besoin de ressources humaines dans les années à venir? Donc, c'est tout des politiques qu'il faut, des stratégies qu'il faut négocier, discuter avec les autorités congolaises et où il faut aussi investir.
Bruno Lemarquis est notre invité, interview à suivre à la fin de ce journal. En bref, ça c'est que la MONUSCO et le gouvernement de la RDC organisent une conférence de presse conjointe sur les processus de désengagement de la MONUSCO ce samedi 13 janvier 2024 à 11h au siège du gouvernement à Kinshasa, immeuble intelligent, 10e étage. La conférence sera animée par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, et le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Elle sera retransmise en direct sur Radio Kapi en FM ainsi que sur nos plateformes digitales. En Ituri, deux femmes ont été tuées hier vendredi par des rebelles ADF à Luna, Kabrik, environ 150 km de Bounia, au sud d'Irumu, dans la chefferie des Walese Vankoutou, sur la route nationale numéro 4. Selon des activistes des droits de l'homme dans la région, le drame s'est produit à côté d'une position des militaires de l'armée ougandaise. Ils déplorent la recrudescence des attaques des ADF dans la région en dépit des opérations militaires au Shujaa conduites par les forces conjointes FRDC armée ougandaise. L'un de ces activistes est Christophe Mounyanderou. Il a été joint par Martial Kizabiamungu.
Au courant de ces mois, de janvier 2024, l'ennemi ADF a multiplié ses attaques. Il continue à tuer des populations civiles. Et le cas le plus récent est celui de ce vendredi 12 janvier 2024, où nous venons de perdre nos deux compatriotes. Des mamans ont été tuées par ces présumés rebelles ougandais de l'ADF, à peu près quelques mètres d'ailleurs de la position des militaires ougandais. Cela est justifié, c'est parce que il n'y a pas des opérations de la poursuite de l'ennemi à profondeur de la brousse. Mais l'ennemi, on lui a laissé le temps de circuler dans la forêt. Il faudrait qu'on puisse aller à profondeur, de poursuivre l'ennemi, ADF, à profondeur, pourvu qu'on puisse épargner les vies de cette population civile.
Et toujours en Ituri, 5 cas de viol de filles mineures, dont une est morte, ont été enregistrés cette semaine dans les territoires de Djougou. Le bureau genre et enfants dans cette entité déclare qu'environ 600 femmes et enfants de moins de 16 ans ont été victimes de violences sexuelles l'année dernière. Les présumés auteurs sont essentiellement les miliciens et certains éléments des forces de l'ordre. Le point avec Isaac Rémo.
Les cas de violences sexuelles sont récurrents dans les territoires des Djougou, surtout à cause de l'insécurité qui expose certaines filles, mais aussi la pauvreté qui pousse d'autres à la prostitution pour leur survie et de leur famille. Des derniers cas, une mineure de 14 ans a été violée par au moins deux hommes qui l'ont ensuite étranglée. Son corps a été retrouvé mardi par la population qui a alerté la police de protection de l'enfant, précise la chef des bureaux genre du territoire des Djougou. Bioagarit ajoute que quatre autres filles ont été violées cette semaine vers Pandroma et leur état est critique dans une sanitaire. Elles ont été kidnappées par leurs voisins qui ont abusé d'elles. Au cours de l'année 2023, au moins 600 cas de violences sexuelles ont été enregistrés par son service dans ces territoires, notamment dans les localités de Mandro, Chomia et dans la commune rurale de Mungwalu. Cependant, plusieurs autres cas de viol échappent au service de sécurité et à la justice. Les bureaux genre de Djougou demandent au gouvernement de démanteler les groupes armés réfractaires au processus de paix et d'accélérer les programmes de désarmement et démobilisation pour stopper la récrudescence recrudescence des violences sexuelles dans cette entité. Bounia, Isaac Raymond Yopé, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le Forum de paix de Beni recommande la tenue d'un dialogue pour mettre fin à la dégradation de la situation sécuritaire qui prévaut dans la commune rurale de Mangina. Selon Justin Matete, son coordonnateur, la tension reste vive dans la région depuis lundi dernier après les affrontements entre les FRDC et un groupe de miliciens Mai Mai. Dans un communiqué rendu public jeudi dernier, le Forum de paix recommande également l'organisation d'un cadre d'échange entre la population et les responsables de l'armée pour renforcer la collaboration entre les civils et les militaires. Justin Matete est au micro d'André Kitenge.
Navré par la dégradation de la situation socio-sécuritaire et économique de la commune de Mangina, le Forum de paix recommande ce qui suit à la population de toute la zone affectée de s'organiser en petits groupes de personnes volontaires bien identifiées dans chaque quartier pour remonter les alertes auprès des autorités compétentes et flexibles à intervenir à temps opportun. Au commandant des opérations Sokola 1, secteur opérationnel du Grand Nord Kivu, d'instaurer un mécanisme permanent de permutation des troupes dans les zones opérationnelles pour permettre un renouvellement des souffles par les militaires engagés au front. D'organiser urgentement un dialogue sans tabou qui mettra autour d'une table la société civile, les acteurs politiques, l'armée et les autorités politico-administratives ainsi que autorités policières et militaires.
Et toujours au Nord Kivu, les étudiants, les malades, les opérateurs économiques et autres voyageurs de Goma qui fréquentent Bujumbura au Burundi et qui passent par le Rwanda seront désormais soumis à certaines perturbations de voyage. C'est à la suite de la fermeture des frontières qui séparent le Rwanda et le Burundi depuis le jeudi 11 janvier dernier. Bien que le voyage se poursuive, le trajet devient plus long et les transporteurs craignent de connaître un manque à gagner et d'autres éventuelles difficultés. Sifa Maguru nous en dit plus.
À partir de Goma, une agence de voyage qui relie Goma à Bujumbura fait au moins 10 à 15 courses chaque jour de part et d'autre de ces deux villes. Un des chauffeurs que nous avons rencontré ce matin explique qu'au lieu de 8 heures de trajet pour arriver au Burundi, en passant par la frontière des Rua qui est fermée, les passagers vont désormais traverser le Rwanda pour Kamanyola puis Uvira avant d'entrer au Burundi. Mugi Chopolin. Nous passons par Kamanyola, nous entrons à Uvira, puis Kanvivira jusqu'à Bujumbura, bien que le trajet devienne très long. Il peut y avoir des pertes par rapport à nos services courriers, mais aussi les carburants. On consomme d'habitude les carburants pour $80 jusqu'au Burundi, mais maintenant, on ne sait pas si ça pourra suffire pour arriver. Le jeune de Goma qui étudie au Burundi pour leur part n'apprécie pas cette mesure. Elle aura un impact sur les prix du transport, sans oublier l'insécurité sur les routes de Kamanyola.
Je m'appelle Enoch. Comme la frontière vient d'être fermée, nous serons obligés de passer par la frontière Gatumba-Kozizi. Cela va entraîner une hausse de prix du transport. La route de la plaine n'est pas praticable. En plus, il y a d'insécurité.
Je suis Daniel Chubaka. Maintenant, on est en vacances. Certains sont encore au Congo. Ils vont venir. Le voyage sera vraiment très dur pour tous les étudiants ressortissants du Congo.
Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
À Lubumbashi, plus de 380 personnes souffrant de plusieurs maladies, dont la fente labiale, ont été soignées gratuitement au cours de l'année 2023. C'est l'œuvre de l'ONG Bureau d'assistance aux malades nécessiteux. Pour les coordonnateurs de cette structure, l'objectif est d'apporter du sourire aux malades qui croupissent dans le désespoir et leur démontrer que c'est possible qu'ils recouvrent leur santé. D'autres détails avec le docteur Foreman Mabala, coordonnateur du Bureau d'assistance aux malades nécessiteux au micro de Jean Gandou.
À notre actif, nous avons atteint plus de 384 interventions chirurgicales. Nous ne sommes pas limités aux interventions maxillofaciales. Nous sommes allés même un peu plus loin à des interventions spécifiques, les cas de goitre, les cas de hydrocéphalie, les cas de neurochirurgie. Comme vous le savez, ce sont des interventions qui coûtent énormément cher et les BAM l'a fait gratuitement auprès de bon nombre de nos bénéficiaires et de personnes qui avaient besoin de nos soins appropriés. Les malades sont venus un peu de partout, du Grand Katanga, de Lubumbashi, Sakai, Kanya, Kipushi, Luena, Kabongo, et Kamina, Tanganyika, partout. Et la particularité pour 2023 était que le bureau d'assistance aux malades de nécessité est allé vers ces malades dans les fins fonds et ainsi de profiter de l'occasion pour essayer un peu de relever les niveaux de prestations des différents médecins, infirmiers qui œuvrent dans les domaines d'anesthésie et réanimation et surtout de faire une très bonne chirurgie très sécurisée.
Retour au Nord Kivu où la police de la Monisco Beni UNPOL a doté jeudi dernier la police nationale congolaise du sous-commissariat de Oicha dans le territoire de Beni d'un lot de matériel informatique et de fournitures de bureaux. C'est pour équiper la salle de formation de la PNC Oicha construite l'année dernière par la Monisco. Les bénéficiaires saluent cet énième appui de leurs partenaires et affirment qu'il va leur permettre de travailler enfin dans de bonnes conditions et avec professionnalisme. Des explications avec Grévis Salomon.
Le matériel offert par la police de la Monusco jeudi à la PNC d'Oicha est constitué de tables et de bureaux, d'une cinquantaine de chaises, des armoires métalliques ainsi que des kits informatiques. Le commissaire supérieur Michel Mbala, commandant intérimaire du secteur de la police dans le territoire de Bénin, ne cache pas sa satisfaction.
Mais on ne peut pas travailler à la belle étoile. Ça doit nous mettre à l'aise dans de bonnes conditions de travail. À l'époque, on travaillait dans des petits bicoques, dans des petits bureaux qui ne convenaient pas à tout le monde. Maintenant, si vous passez dans nos bureaux, vous trouvez que nous sommes dans un standing international bien équipé.
L'enjeu de la police, c'est ça. Moissy, informaticien au sous-commissariat de la PNC Oicha, explique concrètement comment ce don de la Monisco va changer leurs conditions de travail.
En tout cas, la police éprouvait plusieurs difficultés parce qu'on devrait travailler dans des secrétariats publics. Ça, c'était l'individuation des secrets professionnels. Si en particulier, les données restent dans sa machine, c'est la force des machines à constituer et souffle pour la police. Même on peut demander quelque chose, même là, nous pouvons aller au bureau, vous travaillez, vous retournez. Comme auparavant, même si on demandait quelque chose à 20h, on devait manquer là où travailler.
Tout en saluant les efforts de la police pour la sécurisation de la population et de ses biens, le chef de bureau de la Monisco Beni, Josiah Obat, a appelé la population à avoir une bonne collaboration avec les éléments de l'ordre. Beni, Grévis Salumu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La situation humanitaire globale s'est améliorée en République centrafricaine en 2023. C'est le constat du panorama des besoins présenté par OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU à Bangui, mais qui reconnaît des points de tension. Aux Comores, la campagne électorale s'est achevée hier vendredi avant le double scrutin de demain dimanche. Les Comoriens sont appelés aux urnes pour élire les futurs gouverneurs des trois îles des Grandes Comores, Anjouan et Moéli, aussi et surtout pour élire leur président. La campagne, ouverte le 17 décembre, a duré officiellement 4 semaines, sans violence, mais particulièrement tendue.
L'invité.
Au Nord Kivu, la cité de Sake dans le territoire de Masisi compte plus de déplacés que sa propre population. C'est le constat fait par le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur de l'action humanitaire. Devant cette réalité qui n'est pas particulière à cette cité, Bruno Lemarquis, notre invité, conclut que la réponse humanitaire 2024 va nécessiter plus de fonds. Il est avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Bruno Lemarquis, bonjour. Vous revenez des Sake où vous avez visité les déplacés. Quel constat avez-vous fait sur place?
Il y avait 25 000 habitants et maintenant 26 000 déplacés, ce qui fait donc 51 000 personnes. Donc, par exemple, au niveau des conséquences, beaucoup plus de pression sur les services publics qui existaient à Sake auparavant, les structures de santé, les structures éducatives. Au niveau des sites, énormément de besoins. Et c'est qu'un exemple, puisque, comme on le sait, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont dû fuir au cours des 12-18 derniers mois, notamment, mais pas uniquement, autour de Goma. Beaucoup de partenaires sont sur le terrain, des partenaires étatiques, les Nations Unies, des ONG congolaises, des ONG internationales, qui font vraiment tout ce qu'elles peuvent en termes d'appui, des services de santé, l'eau, l'assainissement, etc. Donc on a eu beaucoup de discussions avec les gens pour qu'on comprenne quelles sont leurs préoccupations quotidiennes. Donc peut-être pour citer un certain nombre des points qui sont sortis de ces discussions, gros souci, l'éducation.
Et quels sont les problèmes spécifiques, notamment dans ces secteurs de l'éducation?
Un double problème. Certaines des écoles de Sake sont encore occupées, ça s'appelle des sites collectifs. Ouais. Donc elles sont encore occupées la nuit par des déplacés qui viennent dormir dans les salles de classe. Pendant la journée, les déplacés quittent, les élèves viennent. Mais ça, c'est les élèves de Sake, ceux qui étaient là à l'école avant. Donc c'est déjà un problème de déplacés qui sont toujours dans les écoles, autour des écoles. Et ensuite, il y a les enfants des sites. Les écoles de Sake étant déjà pleines, débordées, les enfants des sites ne vont pas à l'école.
Voilà. Donc c'est un double problème au niveau de l'éducation. Il y a aussi, parmi les déplacés, parmi tous ces déplacés, donc en centaines de milliers, il y a beaucoup de professionnels qui se sont déplacés aussi avec eux. Il y a des instituteurs, il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des sages-femmes qui sont aussi maintenant dans les sites. Il faut trouver la bonne combinaison aussi pour que ces ressources humaines qualifiées soient aussi mises à contribution.
Dans ces contextes-là, où il y a beaucoup de besoins, dans les sites autour de Goma, nous voyons beaucoup de partenaires qui sont fin projet parce que les financements sont terminés dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'eau et dans les sites ici, il y a des déplacés qui sont carrément abandonnés. Qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de la coordination humanitaire pour prévenir des catastrophes?
Alors, peut-être donner quelques chiffres au niveau des financements, y compris ceux qu'on va demander pour l'an prochain. Dans quelques semaines, on va lancer le plan de réponse humanitaire 2024. Les besoins humanitaires en RDC sont gigantesques. La situation est dramatique. Les besoins se chiffrent en milliards de dollars. Donc, pour 2023, nous avions demandé 2,25 milliards de dollars et nous avons été financés à la fin de l'année à 40%. Donc, c'est déjà énormément de ressources, mais c'est insuffisant compte tenu de l'ampleur des besoins. Et pour l'an prochain, le plan de réponse humanitaire sera encore plus cher, ça sera 2,6 milliards de dollars puisque les besoins ont continué à augmenter, notamment avec des nouveaux déplacements du fait des combats. Donc on parle vraiment de sommes astronomiques. Donc on sait déjà que l'année 2024 sera aussi difficile pour les financements. Il faut toujours faire du plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour que cette crise ne soit pas négligée. Et on remercie vraiment tous nos bailleurs de fonds, mais compte tenu de l'ampleur des besoins, ça reste insuffisant. Et on le voit bien dans les sites, par exemple, autour de Goma, mais pas uniquement. En Ituri, il y a énormément de besoins humanitaires dans de nombreuses parties du pays, notamment dans les provinces de l'Est. Et comme j'ai l'habitude de le dire aux partenaires, le meilleur moyen d'avoir une réponse humanitaire mieux financée, c'est de faire baisser les besoins humanitaires. S'il y avait moins de besoins, la facture serait moins élevée. Et comment on fait baisser les besoins humanitaires? C'est la paix, c'est les solutions politiques. Voilà, c'est tout ce travail autour du retour de la paix et de la stabilité. Amani. C'est tout le travail autour des causes structurelles des conflits en RDC. C'est la question de l'exploitation des ressources naturelles, des conflits fonciers, des conflits coutumiers. Donc ça, c'est les causes structurelles qui créent beaucoup de conflits, beaucoup de déplacements. Donc il faut travailler plus sur ces problèmes pour qu'il y ait moins de conflits au niveau local et pour qu'il y ait moins de besoins humanitaires. C'est la meilleure façon de résoudre cette crise et ce manque de financement. Cette crise dure depuis tellement longtemps en RDC. C'est une des crises les plus prolongées du monde. Parfois, il y a un peu de routine qui s'est installée parmi les acteurs. Donc c'est toujours bien d'avoir des regards extérieurs ou bien de réfléchir un peu comment on peut nous remotiver pour être plus efficaces. L'efficacité aussi. Pour que chaque dollar puisse faire plus.
Monsieur Bruno Lemarquis, je rappelle que vous êtes le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en charge de la coordination humanitaire. Merci.
Merci.
Et ce journal est à présent terminé. Il a été supervisé par Jacques-Yves Molima et mis en onde par Polydor Basunga. À vous infiniment merci de l'avoir écouté.